Une vie, une œuvre, Simone Veil, 1909 Paris, 1943 Ashford. Simone Veil vit son enfance dans une famille juive non pratiquante. Avec son frère aîné, André, elle joue dans les différentes maisons où les conduit leur père, médecin militaire, durant la Première Guerre mondiale. À l'âge de 10 ans, cet enfant précoce entre au lycée Fénelon à Paris. Plus tard, en classe préparatoire, elle a pour professeur de philosophie Alain. Très vite, elle s'attache à défendre les plus fragiles. Son surnom à l'école normale est la Vierge Rouge. À une adolescence tourmentée, succède une vie engagée en permanence. En 1936, elle rejoint Durruti en Espagne. En juin 1941, exclue de l'université par les lois antisémites, elle devient ouvrière agricole en Ardèche. En 1942, elle part avec ses parents pour les États-Unis, mais rejoint en novembre la Grande-Bretagne, où elle travaille comme rédactrice dans les services de la France libre. Pensant le monde et l'écrivant en permanence, elle laisse de nombreux cahiers, La pesanteur et la grâce, ou encore L'enracinement. Marie-Christine Navarro signe, avec Isabelle Iuel, Une vie, une œuvre, Simone Veil.
Pas moins belle à nos yeux parce que nous savons que parfois des bateaux sombres. Elle en est plus belle au contraire. Si elle modifiait le mouvement de ses vagues pour épargner un bateau, elle serait un être doué de discernement et de choix, et non pas ce fluide parfaitement obéissant à toutes les pressions extérieures. C'est cette parfaite obéissance qui est sa beauté. Toutes les horreurs qui se produisent en ce monde sont comme les plis imprimés aux vagues par la pesanteur. C'est pourquoi elles enferment une beauté. Parfois un poème, tel que l'Iliade, rend cette beauté sensible.
Cette pensée irremplaçable, hors institution, que l'on ne peut rencontrer que d'individu à individu, a influencé de nombreux lecteurs, parmi lesquels le moine bénédictin Aubourg, pour qui elle fut déterminante dans son itinéraire spirituel, qui en confia l'essentiel à Estienne Ostier, prêtre que nous écoutons à présent.
Je crois que ma première lecture de Simone Veil, ça a été vers l'âge de 19 ans, 20 ans, quand je commençais à redécouvrir personnellement la foi. Effectivement, ma famille est d'origine juive, et comme la famille de Simone Veil était à l'origine une famille tout à fait détachée de la tradition juive, dans laquelle on ne pratiquait plus aucun des préceptes de la loi juive, dans laquelle on ne lisait plus du tout les écrits de la tradition, mais ma famille, en fait, après la guerre de 14-18, chez mon grand-père, s'est rapprochée peu à peu de la foi chrétienne. Et le premier écrit religieux, au fond, qui m'est frappé et qui m'est apporté une nourriture, certainement, c'est la pesanteur et la grâce. Je ne l'ai peut-être pas entièrement lu, mais il y a des passages de la pesanteur et la grâce qui m'ont vivement frappé, qui m'ont donné les moyens de me comprendre moi-même. En particulier de comprendre, je me souviens très bien, l'insatisfaction que je pouvais éprouver devant tout ce que la vie me proposait ou tout ce que je pouvais vivre. Et je me souviens d'une, je ne sais pas si je pourrais la citer de mémoire, d'une phrase de la pesanteur et la grâce qui a joué un grand rôle à ce moment-là. Toutes les choses créées refusent d'être pour moi des fins, F-I-N-S, des finalités. Eh bien, cette phrase, cette pensée, m'a permis de comprendre quelque chose que je vivais. Vous voyez. Alors elle a été pour moi une porte, en ce sens, une porte dans le sens d'une compréhension, vous voyez, de cette exigence d'absolu que l'on porte en soi-même.
« Marie-Joseph Perrin, père dominicain, qui relate sa première rencontre avec Simone Veil.
C'est le samedi, premier samedi de juin, que nous nous sommes vus longuement. En 41.
Finalement, peu de temps avant sa mort.
Un an. Je l'ai connue un an. Vous voyez, je l'ai connue très profondément pendant cette année. Elle était à Marseille depuis quelques mois. Dès que Paris était ville ouverte, elle a pensé qu'il n'y avait pas de raison de rester. Elle est partie avec ses parents. Ils ont été quelque temps à Vichy. Et puis, elle est venue à Marseille au mois de décembre 40. Et là, elle a retrouvé des amis de l'université. Et elle a donc cherché une occasion, un moyen de faire la même expérience en milieu agricole que ce qu'elle avait fait en milieu ouvrier. Et la conversation, évidemment, a tout de suite tourné autour du Christ. Et à la fois, mais dès cette première rencontre, nous nous sommes trouvés très profondément, en profonde communion, dans son amour du Christ. Et ça a été tout de suite. Oui, cette profondeur spirituelle, ça traite tout immédiatement. Et puis, en même temps, assez vite, elle était très peu au courant de tout ce qui pouvait être la foi de l'Église. Elle avait eu, à l'école normale, elle avait suivi des cours de Guinberg, par conséquent, c'était plutôt le côté rationaliste. Et depuis à peu près 3 ans, elle avait eu une expérience spirituelle qui a changé sa vie. Là, cette expression dans sa lettre, c'est donc l'expression est d'elle-même, le Christ est descendu et m'a pris. Et cela, à ce jour-là, elle ne me l'a pas dit, mais j'ai tout de même perçu très clairement que pour elle, le Christ, elle était profondément attirée par lui. Il a fallu des semaines pour que je découvre à la fois la profondeur et toute la richesse de son expérience ne s'est montrée vraiment à moi que dans cette lettre autobiographique à laquelle j'attache beaucoup de prix, parce que elle-même, c'est elle-même qui a trouvé ce nom de son autobiographie spirituelle. Dans la suivante, elle me dit « mon autobiographie spirituelle ». Alors je crois que c'est très important de voir comment elle-même, peu à peu, a pris conscience et de cette emprise du Christ sur elle, de cette expérience qui lui a donné la certitude et la divinité du Christ, et aussi de son universalité. Parce qu'il est très frappant, c'est que c'est cette découverte personnelle du Christ qui a devenu la lumière de toutes ses autres recherches et qui a progressé. Parce que, voyez-vous, pendant l'année où je l'ai connue, elle a d'abord découvert le Notre Père, le Pater. Sa découverte du Pater est un des événements spirituels importants. Pendant l'été, 2-3 mois après ma première rencontre, elle m'a fait une allusion, sans me dire la profondeur mystique de cette rencontre. Et puis, plus tard, un peu plus tard, la découverte de l'Eucharistie, qui est tout de même un des traits saillants, puisqu'elle me dit dans son autobiographie spirituelle, mon cœur a été transporté pour toujours, je l'espère, dans le Saint-Sacrement exposé sur l'autel.
Agiasteto to onomasu, el tato he basileia su, geneteto to telemasu, hos en uranoi, kai epiges, ton arton hemon, ton epiusion dos, hemin semeron, kai iafes hemin tau feilemata hemon, hos kai hemeis afecamen, tois ofeigetois hemon, kai meis enenkeis hemas, eis peirasmon, alia rusais hemas apo tu ponero.
Je pourrais peut-être lire, pour introduire les réactions du Père Aubourg vis-à-vis de Simone Veil, cette lettre du 20 mai 1950. La pesanteur et la grâce a dû être publiée en 1947 et l'attente de Dieu a dû être publiée dans les années 48 à peu près. Je suis heureux que vous lisiez Attente de Dieu de Simone Veil. J'aurais conçu la préface autrement. La préface était du père Perrin. Eh bien, j'ai pensé aussi que si j'avais eu affaire à elle, je l'aurais menée plus loin. C'est un être admirable, hors pair. Je la prie comme une sainte de la grande espèce. Elle est un des plus grands témoins spirituels de notre temps et marquée d'un signe unique sans précédent, je crois bien, dans l'histoire religieuse de tradition biblique. Providentiellement, son arrêt au seuil de l'Église visible, mais son avancée si profonde au cœur des choses divines sous le signe du Christ a une portée en soi immense. Ainsi, elle est un signal autant pour l'Église que pour les âmes en quête. Elle ne se sent pas le droit, malgré tout le désir qu'elle en a, de demander le baptême.
Par honnêteté intellectuelle.
Par honnêteté intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'elle vit ce paradoxe d'avoir un désir et une faim incomparables pour les sacrements de l'Église, et en particulier pour l'Eucharistie. Alors, je crois que pour comprendre un peu le contenu et ce paradoxe de la vie de Simone Veil, je crois qu'il faut essayer de saisir qu'il y a comme deux dimensions principales dans ce qu'elle appelle sa vocation. Je dirais d'abord une vocation philosophique ou théologique. Une vocation intellectuelle au sens large. Je crois qu'elle l'exprime très fortement dans les pensées sans ordre qui ont été publiées. Elle en vient à préciser quel est l'objet de son travail, mais qui est l'objet aussi, je crois, de sa vocation. Pour elle, elle ne peut pas échapper, parce que ça fait partie pour elle de son devoir spirituel, c'est une obligation spirituelle pour elle, de penser et d'aller le plus loin possible dans cet effort de penser les rapports, les relations entre la vocation surnaturelle de l'homme, disons, et tous les différents domaines de la vie.
Et toutes les traditions, autres que les christianismes.
Toutes les traditions et tous les différents domaines de la vie, le travail, la science, l'art, la vie politique, même la guerre, et toutes les autres traditions. Et essayer, au fond, de penser les conditions du salut surnaturel de l'homme, telles qu'elle le perçoit, dans les circonstances concrètes de sa vie, de son époque, au moment même où elle vivait. Et ce travail, pour elle, ne peut se faire, bien sûr, qu'avec une rigueur intellectuelle totale. Et c'est là, je crois, une des raisons qui l'a arrêtée sur le seuil de l'Église. Et l'autre aspect de sa vocation, je mets de côté ce qu'elle considère être de la vocation de tout homme. Au fond, lutter pour la justice, au sens où elle donne sens à ce mot justice, c'est-à-dire que pour elle, ça fait partie de sa vie d'agir, hein, pas simplement de penser. L'autre aspect de sa vocation, me semble-t-il, tel qu'il s'exprime en particulier dans la dernière lettre qu'elle a écrite à Maurice Schumann, c'est de vivre l'amour de Dieu et vivre l'extrême de l'amour de Dieu, aller jusqu'au bout de l'amour pour Dieu, au contact du malheur. Elle reconnaît à la souffrance un certain rôle pédagogique. La souffrance nous met au contact avec la réalité, nous fait prendre conscience que le monde obéit à une nécessité indépendante de notre volonté. Mais elle fait une grande distinction entre le malheur et la souffrance, parce que le malheur, c'est vraiment quelque chose qui détruit la personne. Le malheur, c'est un arrachement, une dépossession totale de l'être. C'est Job, et bien sûr, c'est aussi, malheureusement, le malheur, c'est ce qui arrive à des millions et des millions d'êtres humains. Hein. Il a toujours été là. Pour elle, il a toujours été là. Et il est inscrit comme une épée de Damoclès, au fond. Il est inscrit comme une sorte d'épée de Damoclès sur la vie de tout être humain. Hein. Tout être humain peut être plongé d'un jour à l'autre dans le malheur.
Hein. Et alors, elle dit à ce moment-là qu'il faut aimer Dieu jusque-là.
Voilà. Voilà. Alors, elle dit à ce moment-là, elle dit que la seule réalité qui permet à un homme de ne pas être détruit par le malheur, et de ne pas être réduit à une sorte de vie ou bien soumise comme un chien est soumis à son maître, ou bien à une vie, au contraire, à une révolte, mais encore, elle dit, la révolte elle-même n'est plus possible dans le malheur. Le malheur engendre une sorte de haine de soi-même. Hein. Bon, elle est très consciente de ces choses-là. Et la seule chose qui permet à l'homme d'être sauvé de cette destruction, c'est, au moins en germe, en lui, un regard intérieur tourné vers le bien transcendant. Pour Simone Veil, et c'est très important et c'est certainement une vérité décisive, Dieu peut être aimé même sans être nommé, hein, à travers un amour pour un bien qui n'est pas un bien de ce monde.
Nous savons bien à la ressemblance de quoi est fait cet arbre qui a poussé en nous, cet arbre si beau, où les oiseaux du ciel se posent. Nous savons qu'elle est le plus beau de tous les arbres. Nulle forêt n'en porte un pareil. Quelque chose d'encore un peu plus affreux qu'une potence. Voilà le plus beau des arbres. C'est cet arbre dont Dieu a mis la graine en nous, sans que nous sachions quelle était cette graine. Si nous avions su, nous n'aurions pas dit oui au premier moment. C'est cet arbre qui a poussé en nous, qui est devenu indéracinable. Seule une trahison peut le déraciner.
Simone Veil ne sépare pas l'expérience, la méthode et la doctrine. L'expérience, c'est simplement la capacité de discerner les lieux et les instants singuliers dans l'histoire du monde. Et une sorte d'instinct qui permet d'y être présent et présent aux avant-postes.
Bertrand Saint-Sernin.
La méthode, c'est l'art de discerner, la capacité de discerner dans ces événements des structures invisibles, sous-jacentes, le mouvement historique qui se manifeste soit par des crises, soit par des mouvements plus ou moins insensibles. Et la doctrine, ça n'est pas du tout le système, mais c'est au contraire la capacité de structurer la réalité comme elle est, selon ses articulations naturelles, en la découpant un peu comme chez Platon, le bon boucher qui trouve les articulations des animaux. Il y a un double problème. Le problème de savoir comment une jeune fille qui n'a pas eu d'informations particulières a pu discerner finalement les lignes de force du XXe siècle et les phénomènes majeurs qui s'y produisent, c'est-à-dire l'apparition des guerres totales. Et elle dit elle-même dans une lettre à Maurice Schumann que depuis la guerre de 14, elle a été hantée par le malheur du monde. Elle a aperçu également la naissance des mouvements totalitaires. Elle a très bien compris finalement l'esprit et la nature du nazisme, du totalitarisme, du stalinisme. Elle a été tout à fait sensible au phénomène de décolonisation qui commence à peine et elle pressent l'émergence de nouvelles nations. Et surtout, elle est hantée par le malheur des hommes le malheur qui se produit dans le travail quand il est servile, quand il abîme les hommes ou qu'il les détruit au lieu de les vivifier, de les libérer. Et sur ce point qui est majeur dans sa pensée, elle apporte quelque chose de neuf, c'est l'idée que le travail peut être retourné au point de devenir un instrument de liberté, de libération, et aussi qu'il doit être le centre spirituel de la vie, ce sont les derniers mots de l'enracinement. Elle dit que Marx apporte deux choses qui sont fondamentales. D'une part, la capacité d'étudier la société comme un tout, et d'en faire une physique, c'est-à-dire de discerner les forces qui sont au travail. Et ce que Platon apporte par rapport à Marx, c'est d'avoir discerné que si l'univers était régi par les forces, par des forces, avec le caractère errant de la force, le caractère non intentionnel et destructeur de la force, cet univers ne se réduisait pas aux forces. Et d'une façon tout à fait paradoxale, ce qu'elle va reprocher à Marx, c'est de ne pas avoir supporté le désespoir qu'engendre le spectacle du jeu nu de la force, du jeu destructeur de la force, alors que Platon réussit à accepter ce face-à-face avec la force parce qu'il discerne qu'il y a derrière l'ordre des forces un ordre possible, mais seulement possible, de la justice.
Pour moi personnellement, voici ce que ça a voulu dire, travailler en usine. Ça a voulu dire que toutes les raisons extérieures, je les avais crues intérieures auparavant, sur lesquelles s'appuyait pour moi le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même, ont été en 2 ou 3 semaines radicalement brisées sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Et ne crois pas qu'il en soit résulté en moi des mouvements de révolte, non. Mais au contraire, la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même, la docilité, une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait que j'étais née pour attendre, pour recevoir, pour exécuter des ordres, que je n'avais jamais fait que ça, que je ne ferais jamais que ça. Je ne suis pas fière d'avouer ça. C'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle. Ça fait trop mal même d'y penser. Lentement, dans la souffrance, j'ai reconquis à travers l'esclavage le sentiment de ma dignité d'être humain. Un sentiment qui ne s'appuyait sur rien d'extérieur cette fois, et toujours accompagné de la conscience que je n'avais aucun droit à rien, que chaque instant libre de souffrance et d'humiliation devait être reçu comme une grâce, comme le simple effet de hasard favorable.
L'idéal, en quelque sorte, l'ambition de Simone Veil, c'est d'arriver à être conscient de l'univers, ou de cet endroit de l'univers, de cette place dans l'univers, en même temps qu'on en est victime, et de ne pas perdre conscience de la beauté parce qu'on en est victime. Ensuite, quel rapport entre cette beauté et le bien ? Eh bien, c'est que la beauté est une image du bien, ce qui veut dire qu'elle renvoie un principe, à une source, qui est en dehors d'elle, à quelque chose qui est en dehors, et qui est en dehors de la beauté, non seulement de la beauté elle-même, enfin, est-ce qu'elle est en dehors, la beauté en est l'image, mais c'est un principe qui est en dehors du monde. Et Simone Veil parle quelquefois, plusieurs fois, en reprenant d'ailleurs, là elle s'inspire assez littéralement de Platon, d'un passage du Phèdre de Platon, et elle emploie 2 ou 3 reprises au moins cette expression qui est très curieuse. Elle parle d'une vérité qui est de l'autre côté du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est une image très, très paradoxale, et qui est destinée justement à faire entendre la transcendance.
Alors justement, ce texte de l'Iliade, c'est un texte qui, pour elle, est un des grands textes mystiques de l'humanité, parce que cette beauté, cette perfection du texte, ne peut pas ne pas avoir été inspirée par quelque chose qu'elle nomme Dieu. Enfin, c'est un des grands textes saints, finalement, d'une certaine manière.
Oui, alors là on touche à cet aspect très singulier de la référence de la part de Simone Veil à l'hellénisme. Cet aspect très singulier, c'est-à-dire que l'hellénisme, toute la tradition grecque, lui sert à elle d'Ancien Testament, elle substitue cette tradition même à l'Ancien Testament, elle la substitue puisqu'elle, parallèlement, elle opère un rejet très brutal, très violent, qui choque beaucoup de lecteurs, un rejet très brutal de l'Ancien Testament, de la Bible. Alors, elle lit dans ces textes-là ce sens du malheur, cette pitié pour le malheur humain, cette reconnaissance de l'écart entre la nécessité et le bien, et par conséquent, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'elle lit dans ces textes-là la condamnation du pouvoir.
Et dans sa recherche également, là vous avez dit sur ce grec du christianisme, le Christ est la continuation finalement de Dionysos, des rites autour de Dionysos, d'Osiris aussi chez les Égyptiens. Il y a comme ça un continuum entre l'Orient et ce qui est devenu l'Occident finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et on peut pousser l'Orient plus loin puisqu'on peut aller jusqu'en Inde, elle va jusqu'en Inde. Puisqu'elle a appris le sanskrit pour pouvoir lire la Bhagavad Gita, et elle procède tout à fait à la même identification, elle procède à une identification entre le Christ et Dionysos, ou entre le Christ et Osiris, où elle voit dans Dionysos et Osiris d'autres figures du Christ, mais également dans Bouddha. Et elle n'est pas loin de croire que Dionysos ou Osiris ou Bouddha sont au même titre que le Christ des incarnations divines. Ce continuum n'est pas constitué exclusivement de figures que nous dirions, ou qu'elle dit peut-être aussi, mythologiques. C'est, pour revenir au monde grec, qui est ce sur quoi elle s'explique quand même le plus, c'est la pensée grecque et plus exactement la tradition mystique grecque qui s'exprime, enfin dont nous avons le témoignage, à travers Platon. Et c'est en ce sens qu'elle considère Platon comme un mystique. Nous ne savons pas si c'est ce qu'il y avait de meilleur, mais c'est tout ce qui nous reste. C'est le témoin d'une tradition mystique dans laquelle toute la Grèce baignait. Cette tradition mystique ne se réduit pas, ne consiste pas exclusivement en une mythologie, puisqu'elle y inclut, dans cette tradition mystique, les spéculations des pythagoriciens, qui sont des spéculations d'ordre mathématique. Et elle dit que la géométrie grecque, la géométrie des pythagoriciens, est une prophétie.
Et d'ailleurs, il faut remarquer qu'elle lit l'évangile en grec. Enfin, les citations qu'elle fait de l'évangile sont faites tout à fait dans la langue grecque et en grec.
Alors, elle lit l'évangile en grec quand elle était à Saint-Marcel d'Ardèche chez Gustave Thibon en 41. Ils ont étudié ensemble le pater en grec et elle avait une pratique de récitation répétée du pater, effectivement, toujours en grec. Mais il est bien clair que le Christ ne parlait pas grec, il ne parlait araméen, et c'est à croire en lisant Simone Veil qu'en fait c'était un grec qui parlait grec.
Love. Love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin.
L'amour m'ouvrait les bras, mais mon âme coupable, sale de péché, recula. Ce que voyant, et que depuis mes premiers pas je tiédissais, le vigilant amour s'en vint à moi, et tendrement me demanda s'il me manquait aucune chose. Oui, certes, dis-je, un hôte digne de ce lieu. Or, dit l'amour, ce sera toi. Moi, le sans-cœur, l'ingrat, qui ne saurait pas même d'où ami regarder vers toi. L'amour, en souriant, prit ma main et me dit : qui donc, sinon moi, fit les yeux ? Ami, laisse-moi te servir. Assieds-toi, dit l'amour, et goûte mon festin. Pour lors, je m'assis et mangeai.
Même une étape extrêmement importante de la découverte spirituelle de Simone Veil, même s'il y a une profonde continuité dans toute sa vie, c'est la semaine sainte qu'elle a passée à l'abbaye de Solesmes en 1938, je crois, 37, où elle a vécu toute la semaine sainte, alors qu'elle ne disait ne pas encore prier et de ne pas nommer Dieu comme une personne. Bon. Mais c'est dans la continuité de cette semaine sainte qu'elle, sur les conseils d'un ami, qu'elle a récité ce fameux poème Love, un poème anglais, amour, et qu'elle a vécu ce qu'elle dit avoir été un contact intérieur de personne à personne avec le Christ.
Le Christ m'a prise.
Le Christ m'a prise. Hein. Elle n'en a fait la relation que deux fois, extrêmement discrète, une fois dans une lettre au père Perrin et une autre fois dans une lettre Joué Bousquet. Donc cette expérience, cette rencontre décisive tout de même, cette découverte de la réalité de Dieu, hein, à travers une sorte de contact personnel, de personne à personne, s'est fait en continuité avec l'expression sacramentelle de la passion du Christ vécue dans la liturgie. Donc la croix pour elle n'a pas d'abord été pour elle quelque chose d'universel, mais elle a d'abord été quelque chose de particulier, c'est vraiment la croix du Christ. Maintenant, d'une manière qui est certainement en germe dans ces années 38-39, et ça n'a fait que se développer, mais c'est présent au cœur de son expérience. Mais alors, c'est là, effectivement, pour Simone Veil, cette conviction que l'homme ne peut aimer Dieu s'il est lucide qu'en regardant la croix, l'a amené, à mon sentiment, à chercher dans toutes les traditions religieuses, autres que la tradition chrétienne, la présence de la croix. Et elle était effectivement persuadée, absolument convaincu, que puisqu'il y a du malheur partout, puisqu'il y a eu du malheur en tout temps, dans tous les pays, dans toutes les époques, dans toute la civilisation, et puisque Dieu veut le salut de tout homme, la croix est présente d'une certaine manière dans toutes les civilisations et dans toutes les religions. Je crois que c'est une grande question. C'est une grande question qui est posée à la tradition chrétienne. C'est la grande question du salut universel.
La grande énigme de la vie humaine, ce n'est pas la souffrance, c'est le malheur. Il n'est pas étonnant que des innocents soient tués, torturés, chassés de leur pays, réduits à la misère ou à l'esclavage, enfermés dans des camps ou des cachots, puisqu'il se trouve des criminels pour accomplir ces actions. Il n'est pas étonnant non plus que la maladie impose de longues souffrances qui paralysent la vie et en font une image de la mort, puisque la nature est soumise à un jeu aveugle de nécessité mécanique. Mais il est étonnant que Dieu ait donné au malheur la puissance de saisir l'âme elle-même des innocents et de s'en emparer en maître souverain. Dans le meilleur des cas, celui que marque le malheur ne gardera que la moitié de son âme. Ceux à qui il est arrivé un de ces coups après lesquels un être se débat sur le sol comme un ver à moitié écrasé, ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive. Parmi les gens qu'ils rencontrent, ceux qui, même ayant beaucoup souffert, n'ont jamais eu contact avec le malheur proprement dit, n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est quelque chose de spécifique, irréductible à toute autre chose, comme les sons, dont rien ne peut donner aucune idée à un sourd muet. Et ceux qui ont été eux-mêmes mutilés par le malheur sont hors d'état de porter secours à qui que ce soit et presque incapables même de le désirer. Ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle plus surprenant que la marche sur les eaux, la guérison des malades et même la résurrection d'un mort.
Elle a une idée tout à fait curieuse qui consiste à penser que l'invention imaginative relève du talent, alors que le génie, ce n'est pas d'imposer des interprétations nouvelles à l'ordre des choses, mais de discerner les choses comme elles sont. Et la vérité, pour elle, elle dit, la vérité, c'est l'éclat de la réalité. Et par conséquent, l'attention, c'est la capacité d'être visité par la vérité, par la réalité. Elle dit dans une lettre à Joël Bousquet, ce qui est étrange, c'est qu'il y a très peu de gens qui savent que les êtres et les choses existent. Je crois que c'est ça, l'attention. Dans la première partie de L'Enracinement, qui est son dernier livre, il y a toute une partie qui s'appelle Les besoins de l'âme, et dans laquelle elle fait une sorte de, on pourrait dire, d'anthropologie philosophique et spirituelle. Et son idée, c'est que le besoin, C'est le contraire du désir. Le désir est toujours particulier. Le besoin, c'est la nourriture dont a besoin tout homme en tant qu'homme pour devenir libre, pour participer à la justice, pour se sentir enraciné dans un milieu, pour pouvoir exercer des responsabilités, pour être un citoyen. Parce que le thème majeur de son œuvre, c'est la construction des cités. Et alors, je crois que c'est là, si vous voulez, le point qui est toujours présent dans son œuvre, présent dans sa pensée. La vérité est quelque chose qui nous visite. Alors, il faut faire un effort, bien entendu, pour se rendre ductile à la vérité, mais il ne faut pas faire un effort pour construire la vérité. Elle ne se construit pas, elle s'accueille.
Alors, est-ce qu'on n'a pas là précisément une des particularités aussi de Simone Veil par rapport à ses contemporains, cette quête de la vérité partout, avant tout, et cette idée que la vérité est toute simple et que la vérité finalement n'appartient pas au monde. Elle vient dans le monde par éclat, mais elle n'est pas de ce monde. Alors que les intellectuels de l'époque, et les politiciens encore plus bien sûr, sont forcément dans le mensonge, ils n'ont pas cette exigence.
Les politiciens ne sont pas plus dans le mensonge que tous les autres hommes. Autrement dit, si le mensonge désigne le fait que le monde réel soit opaque à nos yeux, alors nous sommes tous dans le mensonge parce que nous sommes tous dans la caverne. Le problème est de vouloir en sortir. Ce qui retourne nos yeux vers l'intérieur, pour reprendre une image de Rilke, c'est en définitive la peur de la mort. L'ordre du monde, dans un premier temps, apparaît comme impitoyable, comme inhumain, et il faut soi-même se rendre impersonnel pour être capable de le supporter. Et ce qu'elle attend des philosophes, c'est cette capacité de supporter les choses telles qu'elles sont, l'ordre du monde tel qu'il est, sans vouloir y mettre une dose d'opium. Au fond, ce que, curieusement, elle va reprocher à Marx, elle lui reproche son idéalisme, elle lui reproche de ne pas avoir supporté le désespoir et d'avoir imposé un espoir fabriqué à des hommes qui ont besoin d'un espoir révélé.
Oui, et c'est là où elle dit d'ailleurs que ce sont les religions de la Terre du XXe siècle qui ont abouti au totalitarisme.
Oui, c'est-à-dire la notion de religion de la Terre est une notion que Raymond Aron, dans une publication qu'il dirigeait à Londres, a mise en valeur. Mais à la même époque, ou même 2 ou 3 ans avant, Simone Veil aborde le même sujet, et elle l'aborde, je crois, d'une façon un peu plus profonde, en disant que les hommes ne peuvent pas ne pas avoir besoin de transcendance, et que quand ils n'ont plus l'idée de la transcendance de Dieu, il faut qu'ils aient l'idée de la transcendance de la matière. Et au fond, ils attribuent à la matière les qualités de Dieu. La matière devient le dernier nom de Dieu.
Elle n'a pas séparé, disons, la critique de la société, la recherche du bien et la vision dans l'univers, une vision de Dieu dans l'univers. Ces trois dimensions étant toujours fondamentalement unies chez elle.
Elle a espéré leur unité, mais elle a vécu leur séparation dans le déchirement. Elle le dit d'ailleurs dans une de ses dernières lettres à Maurice Schumann, que cette impossibilité de penser simultanément la bonté de Dieu et l'ordre du monde l'ont d'une certaine façon crucifiée. Mais il est vrai qu'elle cherche à faire tenir ensemble ces éléments tout en sachant que probablement le mal est inéliminable du monde. Et cette idée-là va être centrale dans sa conception de la politique. Elle ne pense pas que les hommes soient en mesure de créer un homme nouveau, des cités complètement nouvelles. Mais elle pense qu'il faut contenir le mal, c'est-à-dire à la fois le mal du malheur et le mal du méchant, si vous voulez. Le contenir et le réduire, si c'est possible. Et par là même, le problème central de la politique est à la fois un problème individuel et un problème collectif. Elle pense que le nombre ne fait pas la force. Le Parti communiste allemand, en 1932, peut avoir aux élections entre 5 et 6 millions de voix. Et pourtant, il va être battu par une force apparemment plus petite numériquement, mais beaucoup mieux organisée. Ce qui domine l'histoire, ce ne sont pas les masses, ce sont les groupes.
On parle de châtier Hitler, mais on ne peut pas le châtier. Il désirait une seule chose, et il l'a. C'est d'être dans l'histoire. Qu'on le tue, qu'on le torture, qu'on l'enferme, qu'on l'humilie, l'histoire sera toujours là pour protéger son âme contre toute atteinte de la souffrance et de la mort. Ce qu'on lui infligera, ce sera inévitablement de la mort historique, de la souffrance historique, de l'histoire. Comme pour celui qui est parvenu à l'amour parfait de Dieu. Tout événement est un bien comme provenant de Dieu. Ainsi, pour cet idolâtre de l'histoire, tout ce qui est de l'histoire est du bien. Encore a-t-il de loin l'avantage, car l'amour pur de Dieu habite le centre de l'âme. Il laisse la sensibilité exposée aux coups. Il ne constitue pas une armure. L'idolâtrie est une armure. Elle empêche la douleur d'entrer dans l'âme. Quoi qu'on inflige à Hitler, cela ne l'empêchera pas de se sentir un être grandiose. Surtout, cela n'empêchera pas, dans 20, 50, 100 ou 200 ans, un petit garçon rêveur et solitaire, allemand ou non, de penser qu'Hitler a été un être grandiose, a eu de bout en bout un destin grandiose, et de désirer de toute son âme un destin semblable. En ce cas, malheur à ses contemporains. Le seul châtiment capable de punir Hitler et de détourner de son exemple les petits garçons assoiffés de grandeur des siècles à venir, c'est une transformation si totale du sens de la grandeur qu'il en soit exclu.
Elle avait le génie des rencontres. Il ne faut pas oublier qu'elle a rencontré tout au long de sa vie, de sa courte vie, rappelons-le, des gens tout à fait extraordinaires, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan politique.
Oui, elle a été liée d'une part aux fondateurs du Parti communiste français, à des gens comme Souvarine, à des gens qui étaient à la fois des hommes de pensée et d'action comme Monnat, Rosmer. Elle a rencontré le fils de Trotsky, elle a vu Trotsky lui-même, elle s'est attrapée avec lui à propos de l'affaire de Kronstadt. Elle a eu certainement un sens aigu de la singularité des êtres et des situations et un don tout à fait étonnant des rencontres.
Alors vous, justement, qui êtes philosophe, qui enseignez la philosophie, vous savez que Simone Veil n'est pas enseignée ou très peu en France. Vous, en tant que philosophe, comment vous êtes-vous intéressé à Simone Veil? Comment est-ce que vous la lisez? Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, on puisse la lire?
Dans l'immédiate après-guerre, où j'étais moi-même adolescent, Simone Veil était très lue. Mais on lisait plutôt La pesanteur et la grâce, on lisait plutôt les écrits spirituels de Simone Veil. Ce n'est que plus tard que la critique sociale de Simone Veil m'a intéressé, notamment la capacité qu'elle avait de lier à la fois une méthode qu'elle appelait matérialiste et en même temps une sorte de sens très très fort que l'ordre des choses ne se réduisait pas à celui de la matière. Alors, je crois que Simone Veil, dans ses cours d'ailleurs, n'a pas essayé d'inventer. Elle ne pensait pas qu'il était important d'avoir une doctrine particulière, mais qu'il était important d'avoir assez de méthodes pour voir la réalité sans être prisonnier d'un système. Si bien que là où la philosophie est la recherche des lieux communs, c'est-à-dire des lieux où les hommes se retrouvent, et laisser pour comprendre le sens de ce qu'ils vivent, là, Simone Veil reste toujours un compagnon de route et une source d'illumination très grande.
Est-on anathème quand on pense que la source d'où est issu pour Israël le commandement de détruire les villes, de massacrer les peuples et d'exterminer les prisonniers et les enfants n'était pas Dieu? Et qu'avoir pris Dieu pour l'auteur d'un tel commandement était une erreur incomparablement plus grave que les formes même les plus basses de polythéisme et d'idolâtrie. Et qu'en conséquence, jusqu'à l'époque de l'exil, Israël n'a eu presque aucune connaissance du vrai Dieu, alors qu'une telle connaissance se trouvait parmi l'élite de la plupart des autres peuples. Est-on anathème si l'on regarde comme au moins très douteuse et probablement fausse l'opinion que la véritable connaissance de Dieu est plus répandue dans la chrétienté qu'elle ne l'a été dans l'Antiquité et qu'elle ne l'est actuellement dans des pays non chrétiens tels que l'Inde? Serait-il honnête avec de telles pensées de songer à entrer dans l'Église? Ne vaut-il pas mieux supporter la privation des sacrements?
On pourrait dire qu'il y a un autre paradoxe chez elle, apparemment. C'est toute cette dimension anti-judaïque que certains nomment d'ailleurs antisémite de la part de Simone Veil, qui l'a fait rejeter complètement l'Ancien Testament, sauf bien sûr le livre de Job, mais qu'elle tire de la tradition juive, complètement Israël, enfin tout ce qui touche d'une façon générale à l'Ancien Testament. Alors est-ce qu'on peut revenir là-dessus, qui est quand même quelque chose d'essentiel?
Oui, c'est quelque chose de très important et de très, on peut dire, très douloureux. En même temps, surtout douloureux de toute façon, pour ceux qui vivent dans la tradition juive. Et je comprends, j'ai relu des textes là-dessus récemment, je comprends très bien ce que n'ont pas dû comprendre bien les chrétiens quand est parue la pesanteur et la grâce, et que les juifs qui venaient de vivre ces années épouvantables ont trouvé dans la pesanteur et la grâce le chapitre sur Israël. Ça a été un rejet total, à l'exception de quelques-uns. Effectivement, ce sont des pages très difficiles à lire. Alors, il faut tout de même essayer de comprendre pourquoi elle rejetait l'Ancien Testament avec cette violence. Et il faudrait aussi, ben alors là c'est beaucoup plus difficile, pas se contenter de s'indigner, mais essayer tout de même de répondre à ces objections, ce qui est beaucoup moins facile. Bon. Tout de même, elle accepte la Genèse jusqu'à Abraham, non compris, les premiers chapitres. Avec d'ailleurs des remarques d'une extraordinaire, disons, lucidité, pertinence sur le fait que dès le chapitre 4 de la Genèse, c'est l'innocent qui est en quelque sorte abandonné de Dieu, en la personne d'Abel, et c'est le criminel qui est protégé en la personne de Caïn. Bon, c'est un thème qu'elle retrouve là dans le livre de la Genèse et qui parcourt toute son œuvre. Donc elle accepte de l'Ancien Testament pratiquement les prophètes Isaïe, celui qu'on appelle le second Isaïe, et d'autres prophètes encore, les psaumes, vous avez dit, le cantique des cantiques, le livre de Daniel, les écrits de sagesse.
Et Job.
Et Job, bien sûr. Mais alors, avec ce paradoxe, que tous ces écrits qu'elle reconnaît comme authentiques sur le plan spirituel, elle les attribue à une autre inspiration que l'inspiration mosaïque. En fait, elle attribue ses écrits à des emprunts à la sagesse égyptienne ou à la sagesse orientale, ce qui est tout de même très fort, oui. Alors, quels sont ses griefs vis-à-vis de l'Ancien Testament? Ils sont résumés dans le texte qui a été publié sous le nom d'Israël et les gentils, dans la pensée sans ordre sur l'amour de Dieu. Ils sont repris aussi et développés dans la lettre religieuse, et puis ils sont épars dans les cahiers. Je crois qu'il y en a quatre griefs principaux. D'abord, elle considère que Dieu, dans l'Ancien Testament, tout au moins dans la tradition mosaïque, est conçu exclusivement comme toute puissance, et non pas comme bien. Et c'est surtout, pour employer une expression de Simone Veil, c'est le Dieu qui commanderait partout, il en a le pouvoir. Hein? C'est-à-dire le Dieu, au fond, qui ne restreint pas, qui ne limite pas sa toute puissance. Donc, deuxième grief vis-à-vis de la Bible, c'est que la Bible puisse attribuer à Dieu des ordres d'extermination de populations entières. On trouve ça effectivement dans le livre de Josué ou dans le livre ou dans le Deutéronome. Ça serait absolument vain, je ne discute pas complètement les positions de Simone Veil ici, mais certains auraient pensé lui répondre en lui disant qu'il n'y a pas eu d'extermination, que ça c'est une construction postérieure, qu'en fait le peuple, les Hébreux sont rentrés, se sont assimilés peu à peu à la population et que ces récits d'extermination sont des récits très postérieurs. Mais ça n'apporterait absolument pas une réponse à l'objection de Simone Veil, parce que ce que Simone Veil reproche, disons, aux Hébreux, ce n'est pas le fait d'avoir commis ces actes. Pas du tout, ça ne leur reproche pas. C'est le fait d'en avoir attribué l'ordre à Dieu. Et pour elle, ces ordres, elle va jusqu'à dire, ces ordres ne peuvent avoir qu'une source diabolique. Troisième grief, c'est l'idée de rétribution. C'est-à-dire que l'idée de rétribution terrestre du bien et du mal, qu'elle perçoit dans la Bible, au moins jusqu'à l'exil. Cette idée, au fond, que à ses yeux transmet la Bible, que celui qui est bon en ce monde, eh bien, reçoit en ce monde une manifestation de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est bon en ce monde et juste connaîtra un bonheur terrestre. Et inversement, celui qui est mauvais, qui est criminel, recevra en ce monde les conséquences de ses actes. Alors, c'est quelque chose qui lui est absolument imbuvable, mais ça lui paraît une idée non seulement imbuvable, mais extrêmement dangereuse, et c'est vrai, de considérer, ce qui est extrêmement dangereux, c'est au fond, c'est de considérer l'histoire humaine. Concrète, l'histoire humaine, comme le tribunal de Dieu. Comme si ce qui se passait dans l'histoire permettait de juger du bien et du mal d'une nation. Comme si, au fond, une nation qui était juste survivait, nécessairement, et une nation criminelle était condamnée à disparaître. L'histoire ne permet pas, enfin, la relation entre Dieu et le monde n'est pas de cet ordre-là. Et puis alors, le quatrième grief, c'est la conscience d'une élection particulière. C'est-à-dire que la Bible témoigne d'un peuple qui reconnaît être appelé par Dieu à une relation particulière avec Dieu en tant que nation. Je crois qu'elle admettrait très bien, Simone Veil, elle admettrait très bien la notion d'élection en ce qui concerne les personnes et les individus. Parce qu'au fond, ça se confond avec l'idée de vocation, dans ce cas-là. Ce qu'elle n'admet pas du tout, c'est de transposer cette notion d'élection de l'individu, de la personne, à une nation. Maintenant, d'un autre côté, sans répondre aux difficultés de Simone Veil, je crois qu'il faudrait souligner les affinités de Simone Veil, les affinités inconscientes, pour une part, de Simone Veil avec la tradition de l'Ancien Testament et la tradition juive.
Mais vous dites qu'elle est juive malgré elle.
Oui, très juive malgré elle. Elle est plus juive, et d'autres l'ont dit, je dirais même à l'intérieur du judaïsme. Lévinas s'est expliqué deux fois sur Simone Veil, un peu, une fois assez longuement dans un texte qui a été publié dans Difficile Liberté, qui est très, même très sévère pour Simone Veil, mais dans un entretien avec Victor Malka, il souligne, en passant, le judaïsme de Simone Veil. Moi, la première affinité que je vois entre Simone Veil et la tradition juive, c'est tout de même l'importance considérable qu'elle donne dans la vie spirituelle à l'obéissance à Dieu. Ça me paraît extrêmement juif. Et le christianisme, ici, est héritier de la tradition juive. Deuxième chose dont elle n'est pas consciente, pas très consciente, c'est tout de même ce lien intime entre la religion et l'éthique, dans la tradition biblique et juive. Et alors là, il faudrait le voir, elle considère sans doute, Simone Veil, que ceci est présent dans toutes les autres traditions. Mais il me semble en tout cas que c'est incontestable pour la tradition juive. Ce lien intime entre la relation de l'homme à Dieu et la justice entre les hommes. Or, Dieu sait, chez Simone Veil, cette soif de justice, mais peut-être pas dans le sens habituel que l'on donne à ce mot, mais cette soif de reconnaître l'autre vraiment comme un sujet de droit, cette hantise de ne pas blesser l'autre dans sa faculté de libre consentement. Bon, ce sont des choses qui sont présentes dès le début, semble-t-il, dans la législation mosaïque et dans la tradition juive postérieure. Alors, il est bien sûr, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que Simone Weil ignorait totalement l'interprétation juive des Écritures. Troisième affinité, c'est tout de même dans l'Ancien Testament que s'affirme avec une très très grande force que l'univers ne se confond d'aucune manière avec Dieu. Cette opposition résolue à toute forme de panthéisme.
L'accent met sur l'individu également. Hein,
et l'accent, aussi. Voilà, vous avez raison. Vous avez raison, l'accent sur le prix de l'individu. Alors là, j'aimerais citer alors quelque chose qui appartient à la tradition juive, hein, mais que malheureusement elle ne connaissait pas. Je crois que c'est une tradition rabbinique qui commente le récit de la Genèse et qui essaye d'expliquer pourquoi il y a un individu, enfin il y a un couple seulement à l'origine de l'humanité. Et qui dit, c'est pour faire comprendre, au fond, que le prix de l'individu, si un homme sauve un autre homme, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. Ça, c'est une chose qui appartient à la tradition juive et qui se trouve dans... C'est Simone Weil. Il y a quelque chose, je crois, d'inachevé dans sa pensée. Par contre, c'était l'opinion du Père Aubourg, elle n'est pas inachevée sur le plan de la relation personnelle à Dieu. Là, on peut parler de sainteté. Mais alors, elle est, je disais, plutôt source d'inspiration que exemple à suivre. On peut vivre avec elle dans une sorte de dialogue permanent. Elle pose d'excellentes questions. Elle est aussi une réponse à un certain nombre de questions que l'on se pose. Je crois que sur des points essentiels, elle apporte une lumière incomparable. Je pense effectivement que nous aurions intérêt à l'intérieur de l'Église à méditer davantage ce qu'elle dit sur la croix et sur le malheur, et que cela pourrait permettre d'approfondir la théologie de la rédemption. Quand on a eu la chance, ou peut-être plus que la chance, de la rencontrer sur son chemin, je crois qu'on vit toute sa vie avec elle.
Simone Weil ou la brûlure de l'écoute. Avec Bertrand Saint-Sernin, Étienne Ostier, Marie-Joseph Perrin, Michel Narcy, Florence de Lucie, texte de Simone Weil lu par Hélène Lapiovert et Véronique Fauze, texte de Georges Herbert lu par Lucille Imon et extrait en sanskrit des Upanishads lu par Jacques Banz Balbir. Mixage Hervé Levaux. Réalisation Isabelle Huel. Une émission de Marie-Christine Navarro.
Cette émission, diffusée une première fois le 16 mars 1989, est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. Samedi prochain à 19h, Une vie, une œuvre sera consacrée à la cantatrice grecque Maria Callas. Vous écoutez France Culture.